C'est une des très grandes figures qui est encore connue en Chine, puisque son tombeau est à Pékin, à l'intérieur du cadre d'une école d'enseignement du Parti communiste chinois, ce qui est assez amusant, et très bien entretenu. Donc c'est une des grandes figures de jésuites connues et d'occidentales connues à Pékin, parce que au XVIe siècle, il a été très présent en Chine jusqu'à la cour de l'empereur, sans avoir vu l'empereur, puisque l'empereur ne pouvait pas rencontrer des étrangers, mais venant de Macao en 1582, il est arrivé à Pékin en 1601, et il a travaillé à Pékin pendant 10 ans avec toutes les autorisations de l'empereur pour pouvoir être présent dans le champ des mathématiques, du chinois, de la géographie, de l'astronomie, etc. Donc pour les Chinois, c'était très important de rencontrer ainsi un occidental savant et très cultivé, et non pas une espèce de personne plutôt rustre qui aurait voulu essayer d'approcher la cour. Et la cour impériale n'aurait jamais accepté sa présence. En revanche, comme il s'est rendu indispensable pour la cour, il a pu contacter ainsi la cour impériale.
Qu'est-ce qui caractérise l'évangélisation de la Chine par les missions jésuites ?
L'approche par la culture et par la science, c'est-à-dire la volonté d'être très proche des meilleurs esprits de la Chine. Il avait donc apporté l'astronomie et il avait apporté les mathématiques. Il avait une capacité de mémoire extraordinaire. Il avait impressionné les Chinois, qui étaient pourtant déjà des personnes de grande culture. Il les avait impressionnés par sa culture et sa mémoire. Et donc, il est entré en dialogue par là. Donc, c'est par une empathie avec la culture locale qui permet d'être très présent. Un tout petit exemple, par sa technique de l'astronomie, il a pu débattre d'une date, d'une éclipse particulière qui avait lieu à Pékin le début de ces années 1600, et les Chinois donnaient une certaine date, et lui, Matteo Ricci, donnait une autre date, et c'est finalement lui qui a eu raison devant tous les spécialistes chinois. Alors, une chose comme ça, ça impressionne énormément, évidemment, toute la cour impériale de Chine, et ça permet, pour Matteo Ricci, des contacts de très haut niveau sur la question de la culture, de la foi, des grandes questions qui se posent à l'humanité.
Il a également fait connaître la culture chinoise à l'Occident. Est-ce qu'on peut le considérer comme un des fondateurs de la sinologie ?
Dans le sens où il a pu raconter dans un ouvrage qu'il a écrit toute sa vie et toute son approche de la culture chinoise. Donc c'est certainement un des tout premiers sinologues de manière très technique, puisqu'il a traduit des traités d'Euclide en chinois et qu'il a permis d'autres traductions de traités scientifiques. Donc il a beaucoup, beaucoup travaillé la culture chinoise et la langue chinoise pendant des années avant de pouvoir faire ce travail d'approche du chinois et de la culture chinoise.
Dans le contexte actuel maintenant avec la Chine, est-ce que la méthode des jésuites, adaptation aux coutumes et aux usages locaux et neutralité vis-à-vis des autorités, peut nous apporter quelque chose ?
Pas mal de jésuites chinois qui sont présents et qui ont été présents jusqu'à la révolution culturelle, puis ensuite ils ont été pour la plupart mis en prison. D'autres jésuites travaillent à Taïwan en face et se préparent en rapport à la culture chinoise, mais c'est toujours leur approche, c'est-à-dire par exemple la publication de ce fameux dictionnaire Ricci en plusieurs volumes, c'est une approche de la culture chinoise dans ces questions fondamentales, donc qui permet un débat avec cette culture chinoise. Alors, en espérant que ceci pourra déboucher, mais il faut quand même qu'il y ait des conditions minimum, c'est-à-dire que le pouvoir politique en face accepte le débat et accepte la discussion, ce qui n'est pas le cas encore. Il est très difficile de publier en Chine populaire, en Chine de Pékin, et ça pose évidemment un problème pour le dialogue. Pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait deux partenaires. Or, pour l'instant, ça n'est pas vraiment le cas.
Quel est votre sentiment sur la perception actuelle de l'Occident vis-à-vis de la Chine ?
On a une mauvaise image de la Chine parce que on a une mauvaise image de la politique chinoise. C'est les héritages directs d'un régime communiste qui a été quand même entièrement, extrêmement difficile, extrêmement dictatorial. Depuis la révolution culturelle de Mao, qui a fait des millions et des millions de victimes, on ne sort pas de cette difficulté. Donc, je pense que la culture chinoise une aura extraordinaire et on est tout à fait positif vis-à-vis de la culture chinoise, mais la politique chinoise pose quand même des problèmes graves qui ne sont pas prêts de changer, sauf si le gouvernement chinois s'ouvre un peu à la liberté et au dialogue, ce qui n'est pas encore le cas.